إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 25 dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafat Ashab al-Jahim avec l'explication de Cheikh Saleh al-Fawzan. Et au dernier cours, on a terminé de lire le dernier passage de la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et on était rendu à lire l'explication de Cheikh al-Fawzan. Donc c'est ça ce qu'on va lire aujourd'hui, mais juste pour que vous soyez comme dans le contexte de qu'est-ce qu'on est en train de lire. On était en train en fait d'expliquer les versets 76 à 73 dans Sourate At-Tawbah. Et c'est les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les munafiqoun et les mu'minin. Et donc il mentionne que les munafiqoun et les munafiqat, les femmes et les hommes qui sont hypocrites, elles ordonnent le mal, elles interdisent le bien, puis Allah les décrit par certaines caractéristiques, puis après Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les croyants wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Donc comment Allah subhanahu wa ta'ala décrit les munafiqin, puis après il décrit les mu'minin avec des caractéristiques qui montrent en réalité que les caractéristiques des croyants sont le contraire de celles des munafiqin. Donc on était rendu à la partie où Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il disait thumma qala Allah ta'ala nasu Allah fa nasiyahum wa nisyanu Allah tarku dhikrihi بِإِزَاءِ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ فِي صِفَةِ الْمُؤْمِنِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ أَيْضًا تَعُمُّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَالتَّطَوُّعَ وَقَدْ يَدْخُلُ فِيهَا كُلَّ ذِكْرٍ إِمَّا لَفْظًا وَإِمَّا مَعْنًا. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق. وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم تسبيح. Donc il explique le cheikh que les caractéristiques des munafiqin, c'est qu'ils ont oublié Allah et donc par conséquent Allah les a oubliés, c'est-à-dire Allah les a abandonnés, c'est la rétribution qu'ils ont du fait qu'ils ont oublié Allah. Allah les punit en les oubliant, c'est-à-dire en les abandonnant, en les laissant. C'est ça que le cheikh expliquait ici. Il disait que quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il les oublie, c'est pas dans le sens qu'il oublie comme une créature oublie quelque chose. C'est plutôt le fait qu'il les laisse, il les abandonne. C'est ça que ça veut dire. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans d'autres versets dans le Coran, « La yadillu rabbi wa la yansa ». Allah subhanahu wa ta'ala, il s'égare pas et il... il n'oublie pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie rien. Donc, c'est juste dans le sens que An-Nisyan ici, c'est pas dans le sens que qu'est-ce qu'on attribue aux créatures lorsqu'elles oublient, mais plutôt c'est que Allah subhanahu wa ta'ala les punit en les abandonnant et en les laissant. Et par opposition à ça, la description des mu'minin, c'est qu'ils établissent la salat. Et le cheikh explique, il dit que le terme salat ici, c'est plus large dans sa signification que la salat obligatoire ou la salat recommandée. En fait, quand on mentionne ici la salat, c'est pour mentionner en fait tout ce qui a rapport avec le rappel d'Allah. Donc ils établissent le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit dans le terme employé, ou soit dans la signification du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il donne deux exemples qui expliquent chacun un sens de ça, soit dans le sens ou dans le terme lui-même. L'exemple de la parole de Ibn Mas'ud radiallahu anhu, lorsqu'il dit: tant que tu te souviens d'Allah, c'est comme si tu étais en salat. C'est comme si tu étais en salat, même si tu es dans le souk. Donc si tu marches dans le souk ou quelque part dehors et que tu te souviens d'Allah, tu te rappelles d'Allah, c'est comme si tu étais en train de faire la salat. Et la parole de Mu'adh ibn Jabal qui dit: mudarasatul ilm tasbih. Donc le fait d'étudier la science, d'étudier entre nous la science de l'islam, ça c'est une forme de tasbih. Même si on n'est pas en train de dire subhanallah, subhanallah, et de faire le dhikr de cette façon-là, mais le simple fait d'être en train d'étudier la science islamique, de lire les paroles d'Allah, les paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam, et de lire les paroles des ulama, ça c'est une forme de tasbih aussi. Et ça, c'est une ibad, c'est une adoration. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que la science, c'est quelque chose qui éloigne de l'adoration. Comme les soufis, par exemple, chez les soufis, ils s'imaginent, eux, que la science, c'est quelque chose qui t'éloigne de l'adoration ou de l'action, hein, du travail islamique. Et en réalité, c'est le contraire, puisque c'est en soi une des plus grandes formes d'adoration que tu peux faire, chercher la science. Hein? Et c'est une des plus nobles et des plus qui a plus de valeur, parce que c'est celle qui te donne la connaissance de qui est-ce que tu adores, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms, de ses attributs, hein? Et également qui t'explique également les conditions qui ont rapport avec ton adoration, puis comment l'adorer et tout le reste. Donc c'est fondamental. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage-là. Il dit: قوله نسوا الله فنسيهم أي المنافقون تركوا ذكر الله ولهذا قال عنهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. فعلامة المنافق أنه لا يذكر الله إلا قليلا فهذا هو نسيانهم لخالقهم سبحانه. Donc le cheikh il dit que Allah il mentionne ce qui signifie qu'ils ont oublié Allah, donc Allah les a oubliés. C'est-à-dire que les hypocrites ont abandonné le rappel d'Allah. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet dans Surat An-Nisa, le verset 142, et ils ne se souviennent d'Allah que très peu. Ils ne se souviennent d'Allah que très peu. Et donc, le signe d'un hypocrite, c'est qu'il ne se souvient d'Allah que très peu. Hein? Et il dit, donc ça c'est leur oubli de leur créateur. Hein, ils ont oublié leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. فَاللَّهُ جَازَاهُمْ بِأَنْ نَسِيَهُمْ يعني تَرَكَهُمْ فِي الْعَذَابِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالنِّسْيَانِ هُنَا الذُّهُولِ لِأَنَّهُ فِي حَقِّ اللَّهِ لَا يَجُوزُ النِّسْيَانِ وَلَيْسَ هَذَا الْمَقْصُودُ لِأَنَّ اللَّهَ لَا تَأْخُذُهُ ذُهُولِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ لما تركوا ذكر الله بالإعراض عنه تركهم الله في العذاب وأعرض عنهم لأن الجزاء من جنس العمل وهذا من باب المقابلة وإلا فإن الله لا يوصف بالنسيان قال تعالى وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا لأنه منزه عن ذلك وقال سبحانه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Tu vois? Donc le cheikh il explique ce que je disais tout à l'heure. Premièrement, avant il dit, donc étant donné que eux ont oublié leur créateur, eh bien pour les punir, Allah subhanahu wa ta'ala les a oubliés, c'est-à-dire il les a abandonnés dans le châtiment. Ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala il les oublie dans le sens qu'il perd le souvenir de leur existence, ou qu'il oublie, hein, ou il, comme on dit, quand quelqu'un, un être humain, il oublie quelque chose, on dit il a perdu la mémoire. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie pas. Parce qu'il n'est pas permis pour lui d'oublier quoi que ce soit. Hein, et c'est pas ça que l'oubli ici signifie. parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie rien et il perd jamais la connaissance de quoi que ce soit. Mais ça veut dire qu'il les abandonne et qu'il se détourne d'eux, hein, qu'il les abandonne dans le châtiment et qu'il se détourne d'eux. Et ça, c'est la rétribution par rapport à eux, ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ils ont délaissé c'est ce qu'ils devaient faire envers Allah, leurs devoirs et leurs obligations envers Allah, ils les ont oubliés. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, pour les punir, il les oublie dans le châtiment et il les abandonne, il se détourne d'eux. Et il y a toujours une rétribution qui correspond au péché. Il y a toujours une rétribution de la part d'Allah qui correspond au péché que tu as fait. Et donc ici, ils ont oublié, donc Allah les oublie. Et il dit, sauf qu'on n'a pas le droit de mentionner ou de dire à propos d'Allah qu'il oublie. Hein, comme le verset 64 dans Surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, et ton Seigneur n'oublie pas. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا. C'est-à-dire, il n'oublie pas. Et pourquoi? Parce qu'il est purifié de ce genre de défaut, de ce genre d'imperfection. Et aussi le verset 52 dans Surat Taha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, tout ce qui a été mentionné était écrit et enregistré dans un livre, et ton Seigneur ne s'égare pas ni n'oublie. Mon Seigneur n'oublie pas, ni ne s'égare pas, ni n'oublie. Après, le Cheikh il dit وَلِهَذَا قَالْ وَبِإِزَاءِ ذَلِكَ أي لما كان المنافقون نسوا ذكر الله وقابل ذلك فعل المؤمنين فهم يقيمون الصلاة والصلاة ذكر الله عز وجل. قال تعالى أقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري. Donc le Cheikh il dit, par opposition à ça, si on compare avec ce qui a été dit au sujet des munafiqin, et on regarde par la suite ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des mu'minin, il dit par opposition que les croyants, eux, au contraire, ils établissent la salat. Et la salat ici, on veut dire le rappel d'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 14, dans le surat Taha, Aqim al-salat li dhikri, c'est-à-dire établis la salat pour mon rappel. Donc la salat, c'est une forme de dhikr aussi. Et il dit, وقال سبحانه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. Il dit, établis la salat. Certes, la salat, elle interdit ou elle t'empêche de faire des turpitudes et des péchés et du mal. Et le rappel d'Allah est le plus grand. Donc le Cheikh dit, فالصلاة فيها ثلاث فوائد الفوائدة الأولى أنها ذكر الله سبحانه وتعالى والفائدة الثانية أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والفائدة الثالثة أنها تعين على تحمل المشاق والمصاعب قال سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة. Donc le Cheikh il dit que la salat elle contient trois bienfaits. La salat que tu fais, elle contient trois bienfaits. Le premier, c'est un rappel d'Allah. Le deuxième bienfait, c'est que elle t'écarte ou elle t'empêche de faire les turpitudes et les mauvaises choses. Et le troisième bienfait, c'est que elle va t'aider à supporter les difficultés des épreuves de la vie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 45 dans surat Al-Baqarah, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ, c'est-à-dire chercher l'aide d'Allah dans la prière et dans l'endurance et dans la prière, dans la salat. Et il y a des hadiths qui mentionnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il avait un problème ou qu'il avait quelque chose, il se précipitait vers la salat. Il se précipite vers la prière pour retrouver son calme et pour demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le problème qu'il avait. كان يفزع الى الصلاه. قوله ويدخل فيها كل ذكر الله. Et dans le fait de mentionner la salat, que les croyants établissent la salat, il y a le rappel, tous les rappels d'Allah rentrent là-dedans. قال ابن مسعود ما دمت يعني تذكر الله فأنت في الصلاة أي الصلاة يراد بها العبادة المفروضة المبدوءة بالتكبير والمختومة بالتسليم ذات القيام والركوع والسجود والدعاء وتلاوة القرآن فهذه الأعمال مجتمعة من الأعمال القولية والعملية والقلبية هذا في الصلاة خصوصا وتطلق الصلاة ويراد بها العموم فتشمل ذكر الله والتسبيح والتكبير والتهليل. Donc le cheikh il dit que quand il dit ici dans ce passage que la salat ça comprend tout le rappel d'Allah, il mentionne la parole de Abdullah ibn Mas'ud lorsqu'il dit que tant que tu te rappelles d'Allah t'es dans la salat. Il dit le terme salat c'est quand on dit le terme salat as-salat, c'est qu'est-ce qui est connu, la prière qu'on fait obligatoire qui commence par le takbir et qui termine par le taslim et qui est composé du qiyam, du rukou et du sujoud et des invocations et de la récitation du Coran. Toutes ces actions-là réunies qui sont composées de paroles, d'actions et d'actions du cœur également, tout ça c'est la prière qu'on mentionne quand on dit le mot salat en particulier. Mais si on veut le dire dans le sens plus général, et bien là, on veut dire le sens général de la prière, c'est-à-dire le rappel d'Allah en faisant le tasbih, le takbir et le tahlil, c'est-à-dire tu dis subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, et ainsi de suite. Après le cheikh il dit thumma dhakara ma wa'ada Allahu bihi al-munafiqina wal-kuffara min al-la'nati wa min al-nar wal-'adhab al-muqim fi al-akhirah wa bi'iza'ihi ma wa'ada al-mu'minin من الجنة والرضوان ومن الرحمة ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة ليس هذا موضعها وإنما الغرض تمهيد قاعدة سنذكره إن شاء الله. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah ici ensuite il dit que tout ce qu'il est en train de mentionner maintenant c'est une préparation pour expliquer une règle qu'il va mentionner un peu plus loin. Mais tout ça, c'est comme une préparation pour établir certains principes qu'il veut expliquer par la suite. Donc, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à la fin du verset ce qu'il a promis aux munafiqin, les hypocrites, et aux kuffars comme malédiction et comme châtiment de l'enfer et comme une punition constante dans l'au-delà. Et par opposition à ce qu'il a promis comme châtiment aux mécréants et aux munafiqines, il y a la promesse qu'il a faite aux croyants du paradis et de l'agrément et de la miséricorde. Et puis il dit que dans ce qu'il y a comme ordre et choix de mots et de termes dans ces versets-là, il y a de nombreux secrets. Il y a de nombreux secrets. Ce n'est pas ici l'endroit pour en parler. Souvent, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit des choses comme ça. C'est-à-dire, il mentionne quelque chose, puis il dit, mais ce n'est pas ici maintenant l'endroit pour en parler en détail. Donc, il faut juste mentionner pour nous faire comprendre que il pourrait en parler en plus en détail ici, mais ce n'est pas la place. Souvent, c'est parce qu'il en a parlé dans un autre livre, ailleurs. Ou bien parce que, il veut nous faire savoir qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus, mais que ce n'est pas la place. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage-là. Il dit, أن الله جزاهم على فعلهم بعقوبات ثلاثة وهي النار واللعنة والعذاب المقيم كلها والعياذ بالله عقوبات شديدة. Donc, Allah les a rétribués, ces gens-là, ces hypocrites et ces mécréants, par trois châtiments. Le feu, la malédiction et le châtiment constant ou permanent dans l'enfer. Tous ces châtiments-là sont des durs châtiments. وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ. Après, il dit, وَقَوْلُهُ وَبِإِذَاءِ مَا وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ أي وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ فِي مُقَابِلِ مَا وَعَدَ بِهِ الْمُنَافِقِينَ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, par opposition à ce que Allah a promis ou qu'est-ce qu'il a mentionné à propos des munafiqines et des kuffars, les trois choses qu'ils vont avoir comme châtiment, eh bien il y a ce qu'il a mentionné, les trois choses qu'il a mentionné pour les croyants: Al-Jannah, Wal-Ridwan, Wal-Rahma. Trois choses: le paradis, l'agrément et la miséricorde. Wa-Shattan bayna al-Rahmati wal-La'na, fa-bil-Rahma al-Iwa wal-Taqrib, wa-bil-La'na al-Tard wal-Ib'ad, wa-bil-Jannah al-Na'im, wa-bil-Ridwan al-Farah wal-Surur. Donc il dit, ces trois choses-là sont très différentes de ce qui a été promis aux munafiqin et aux kuffar. Puisque la miséricorde, c'est le contraire de la malédiction, de la la'na. Donc al-rahma, c'est la protection et le rapprochement. Et al-la'na, c'est le fait d'être chassé et éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde. Le paradis, c'est les délices. C'est les délices. Et al-ridwan, c'est la réjouissance et la joie, le bonheur, le fait d'être heureux et de se réjouir. Il dit wa qawluhu thumma fi tartib al-kalimat wa alfaziha. Hada i'tibar min shaykh al-islam haythu annahu lam yubayyin kull ma tashtamilu alayhi al-ayatan min al-asrar al-azima wa innam dhakara ma bada lahu min al-isharat. وغرضه من هذا التمهيد لقاعدة تحريم مشابهة أصحاب الجحيم. سبحان الله. Donc le cheikh il dit ici que le cheikh il n'a pas expliqué tout ce qu'il avait à dire à propos du verset. Il nous a juste mentionné certains points, parce qu'il veut arriver à nous expliquer une règle au sujet de l'interdiction de la ressemblance avec les kuffars et les habitants de l'enfer. Donc si tu ne veux pas faire partie du nombre des gens de l'enfer, tu ne dois pas leur ressembler. Si tu fais comme eux, ça veut dire c'est difficile par la suite que tu ne seras pas un des leurs. Nasallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est-à-dire physiquement, dans le sens que de pas les imiter sur tous les plans. Sur le plan de l'habillement, les paroles, les actions, les croyances, et ainsi de suite. Mais l'autre jour, il y a un frère qui est venu ici, le pauvre, il n'a pas de barbe, parce que ça ne pousse pas. Il me dit, mais comment Allah, comment ce serait obligatoire d'avoir une barbe, et puis Allah, il ne m'en a pas donné. Je lui ai dit, c'est obligatoire pour celui qui en a. Et celui qui ça ne pousse pas, c'est Allah qui a voulu. Donc il ne va pas être puni s'il n'en a pas. Mais celui qui en a et qui se rase, ça c'est pas pareil. Mais bon, tu vois, Allah musta'an. Donc le cheikh il dit, il y a dans ces versets là des grands secrets. Moi j'aimerais bien connaître ces grands secrets. Mais malheureusement il n'en a pas parlé pour le moment. Mais Inch'Allah que Allah, on demande à Allah de nous donner la science pour être capable de comprendre ces grands secrets qui sont dans le Coran. C'est pour ça que deux personnes peuvent lire le Coran, mais les deux, ils n'en tirent pas les mêmes fruits. Un, il lit, il en tire peut-être comme 90% de qu'est-ce qui est dedans, et l'autre, il le lit, il a juste peut-être 30%, 20%, parce que sa compréhension n'est pas la même que le savant. Donc c'est pour ça que le degré de la foi souvent est relié au degré de la science et de la compréhension de la religion. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il peut parfois écrire plusieurs volumes sur un seul verset. C'est parce qu'il a beaucoup de connaissances, beaucoup de compréhension de qu'est-ce que ça peut signifier. Tandis que l'un d'entre nous, on va se limiter à essayer d'expliquer qu'est-ce qu'un mot veut dire ou quoi. Et ça s'arrête là. Et encore là. Allah musta'an. Il dit وَقَدْ قِيلَ إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِشَارَةً إِلَى مَا هُوَ لَازِمٌ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنَ الْآلَامِ النَّفْسِيَّةِ غَمًّا وَحَزَنًا وَقَسْوَةً وَظُلْمَةَ قَلْبٍ وَجَهْلًا فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة Mallahu bihi alim. Subhanallah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, yani tu vois que c'est quelqu'un qui était vraiment un docteur du cœur. Hein? Il connaît, et si tu lis les livres d'Ibn al-Qayyim, son élève, tu comprends que yani, c'était quelque chose qui était très fort pour lui. Yani, il connaissait bien la réalité de l'âme et du cœur de l'être humain. Yani. Dans le sens que yani, il connaît les détails, les subtilités qui ont rapport à ces choses-là. Donc il dit ici, on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, il mentionne ce qui signifie « ils auront un châtiment permanent hein? ». C'est le verset 37 dans Surat Al-Ma'ida. Il dit, il indique par ça, yani, que dans la dunya et dans l'au-delà, ils ont des châtiments qui sont permanents et qui restent toujours avec eux. Même dans la vie d'ici-bas, ils ont des... disons que c'est comme pour dire que leur âme, elle souffre tout le temps, même dans cette vie. Ouais, ouais. Ils ont des soucis, ils ont de la tristesse, ils ont la dureté et la noirceur du cœur, l'ignorance. Et il dit tout ça, c'est parce que le kufr et les péchés, la désobéissance d'Allah, causent des douleurs dans la vie d'ici-bas qui sont permanentes et qui restent tout le temps. Et yani, ces douleurs-là, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut hein, connaître à quel point elles sont sévères. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Et je le lisais tout, yani, plus tôt, puis ça décrit exactement l'état yani, de qu'est-ce qu'on constate chez les gens qui ne vivent pas yani, selon l'ordre d'Allah. يعني vous allez voir inshallah le cheikh il dit wa qawluhu wa lahum adhab muqim yufassar wa yurad bihi adhab al akhirah wa qad yufassar wa yurad bihi ma yahsul lahum fi al dunya min dhiq al nafs wa takdir al bal wa dhanq al aish fa in al munafiq da'iman fi hamm wa gham wa la siyama idha ra'a nasr Allah lil mu'minin wa ma hum fihi min al khair فإن ذلك يغمه ويسوءه فهو دائما في هم وقلق وعذاب نفسي في الدنيا أما في الآخرة وأما في الآخرة فما ينتظره من العذاب الجسمي أعظم. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit que le châtiment permanent ça a été interprété comme étant le châtiment de l'au-delà, qu'est-ce qu'il va y avoir après la mort pour les kuffars et pour les munafiqines. Mais ça a aussi été interprété comme étant yani, l'étroitesse qu'ils ressentent, le fait qu'ils se sentent serrés dans leur âme, dans leur poitrine, dans cette vie d'ici-bas, qu'ils sont toujours soucieux, qu'ils ont une vie misérable. Hein? C'est ça la réalité du munafiq. Il est toujours rempli de tracas, de soucis. Et en particulier lorsqu'ils voient la victoire d'Allah pour les croyants et qu'est-ce qu'ils ont comme bien, et ça augmente encore plus hein? Comment ils se sentent hein? Et ce qu'ils ressentent de mal, et donc ça c'est quelque chose qui est constant chez lui, des troubles yani, qu'il ressent dans son âme et des douleurs qu'il a à l'intérieur, tout ça reste permanent chez lui dans la dunya. Et en ce qui concerne le châtiment de l'au-delà, ça c'est qu'est-ce qui l'attend comme châtiment corporel, c'est encore plus grand. Et le cheikh il dit wa qawluhu fa inna lil kufri wal ma'asi min al alam al ajilati al da'imati ma Allah bihi alim wa hadha shay'un mushahad wa mujarrab fatajid al kafir min ashad al nas diq sadr fi al dunya بالرغم من توفر الحياة الرغدة أو الغردة الرغدة وأسباب الرفاهية، وإنما هذا لأنه لا يؤمن بالله، فتجد أن عنده فراغا روحيا لأن النفس لها غذاء يرحمك الله، لأن النفس لها غذاء وغذاؤها صلتها بالله. والمنافق في حنق على المسلمين لا يحبون أن يصيبهم خير، قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Donc le cheikh il dit que le kafir, yani, il dit plutôt que la mécréance et le péché, ça cause des douleurs dans la vie d'ici-bas qui sont permanentes. Donc le cheikh il explique que la douleur qui vient par rapport au kufr et au péché, ça c'est une douleur qui est permanente. Et c'est seulement Allah qui sait à quel point c'est cette douleur-là, qu'est-ce que ça peut représenter. Yani, subhanallah. Le cheikh, il dit, ça c'est quelque chose qu'on peut constater même, on peut en être témoin, et c'est quelque chose qui a été même mujarrab, il dit le cheikh. C'est-à-dire, tu peux même l'expérimenter toi-même, tu peux voir ça hein, chez les gens qui sont dans le coffre. Tu vois que le kafir, yani, il est la personne la plus troublée dans son cœur, dans son âme, il se sent mal. Il se sent mal avec, même ils appellent ça le mal de l'être, yani. Hein, le mal d'être. Ils ont plein de noms pour décrire ça, même. Ils ont même plein de noms pour décrire ça. Puis cet état-là, je ne vais pas les mentionner, les différents termes, mais bon, juste pour que vous sachiez que cette sensation-là qu'ils ont, ils ont décrit ça de plusieurs façons. Et il dit le cheikh que ça, c'est qu'est-ce qu'ils ressentent dans leur cœur dans cette vie d'ici-bas, malgré tout ce qu'ils ont comme distraction, divertissement dans la vie d'ici-bas, toutes sortes de choses pour se changer les idées, pour hein, comme on dit, pour s'amuser, oublier les problèmes qu'ils ont, et malgré tout ils sont toujours dans la douleur. Et pourquoi le cheikh il dit, parce que ces gens-là ne croient pas en Allah. C'est uniquement parce qu'ils ne croient pas en Allah. Donc tu vois qu'ils ont un vide spirituel. Ces gens-là ont un vide spirituel. Pourquoi? Parce que l'âme, elle a besoin de nourriture. Et cette nourriture-là, c'est quoi? C'est sa relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais l'hypocrite, il n'aime pas voir que les croyants, il y a quelque chose de bien qui leur arrive. Hein? Et ça le dérange que quelque chose de bien arrive de bien aux croyants. Yani, subhanallah. Donc le cheikh il mentionne le verset qui dit que les mécréants parmi les gens du livre et les mouchriquins, ils n'aiment pas qu'un bien descende sur les croyants de la part de leur Seigneur. Mais Allah donne à qui il veut de sa miséricorde. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut ou choisit qui il veut pour lui donner sa miséricorde, et Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur d'une grâce immense. C'est le verset 105 dans sourate Al-Baqarah. Il dit وَرَغْمَ أَنَّهُمْ فِي بَحْبُوحَةٍ مِنَ الْعَيْشِ لَكِنَّهُمْ فِي شَقَاءِ النَّفْسِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِنَعِيمِ الْقَلْبِ لا بنعيم البدن والمظاهر فالمسلم حتى وإن عاش فقيرا لا يملك إلا قوته فإنه في سعادة غامرة بعلاقته مع ربه لذلك تجده لا ينظر إلى الدنيا نظر رغبة فيها ولا يحسد غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات معافا في بدنه وأمنا من بات نعم بارك الله فيك من بات معافا في بدنه وعليكم السلام ورحمة الله وأمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. ولهذا يقول بعض الصالحين لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه la jaladuna alayhi bisuyuf. Donc le cheikh il dit, malgré tout ce que les koufars ont comme plaisir de la vie d'ici-bas, hein, mais tu les vois toujours dans une tristesse, ou disons plutôt ils sont malheureux, hein, ils sont malheureux en eux-mêmes. Et donc qu'est-ce qui est important en réalité par rapport à au délice ou à la, ou à la, au plaisir qu'on peut ressentir, c'est pas les plaisirs du corps ou de l'apparence de l'extérieur, c'est en réalité les délices ou le plaisir qu'on a dans notre cœur, du fait qu'on est en paix, du fait qu'on a la foi en Allah. Donc le croyant, le musulman, même s'il est pauvre, même s'il a juste, ce qu'il a besoin pour manger aujourd'hui, hein, il n'a rien d'autre. Mais il est dans un bonheur complet, hein, à cause de sa relation qu'il a avec son Seigneur. Même que des fois, tu vois que, souvent on entend ça, les koufars, ils regardent des documentaires ou des émissions sur les gens qui vivent dans des pays pauvres, hein, et ils voient par exemple comment des musulmans qui vivent dans des pays pauvres, et ils disent... Oh, ils sont malheureux ces gens-là, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de rien. Et pourtant, tu les vois toujours sourire, et ils sont toujours contents, et ils ont plein d'enfants malgré qu'ils n'ont pas d'argent. Comment ils font pour être heureux? Alors que eux, subhanallah, ils ont un enfant, une maison, des voitures, plein d'argent, du temps libre, et ils sont malheureux. Hein? Ils sont obligés de boire de l'alcool tout le temps pour être heureux, de fumer, de prendre de la drogue, d'aller toujours en train dans des endroits pour se divertir où il y a du bruit puis plein de distractions, parce que sinon, hein, s'ils restent dans le calme pendant quelques instants, ils vont commencer à se souvenir de leur malheur, comment ils se sentent mal en eux-mêmes, et c'est ça qu'ils veulent pas. Donc toujours ils boivent, ils fument, ils sont toujours en train d'essayer d'oublier. D'accord? Donc c'est ça le problème. Le croyant, tandis que le croyant, lui, tu le vois, il regarde la vie, yani, avec beaucoup de satisfaction. C'est-à-dire, il n'est pas jaloux des autres, de qu'est-ce que les autres ont, et il souhaite pas ou il désire pas la vie plus que ça. Et il mentionne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée selon Ibn Majah et At-Tirmidhi. C'est le hadith de Ubaydillah Ibn Muhsan Al-Khatmi radiyallahu anhu. Il dit: celui qui a dormi et qui est en bonne santé dans son corps et qui est en sécurité et qui a la nourriture qu'il lui faut pour sa journée, c'est comme si la dunya l'avait abreuvé avec ses ongles ou ses doigts. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il est satisfait, il ne demande pas rien de plus. Et c'est ça la vraie richesse en réalité. Certains des hommes pieux ont dit: si les rois savaient, si les rois et les fils des rois savaient le plaisir et le bonheur dans lequel nous sommes, dans notre cœur, il nous aurait frappé avec les fouets ou avec les épées, hein, pour essayer de le prendre, ce bonheur-là dans lequel on est. Hein. S'il aurait goûté à ce bonheur, le bonheur qui est le résultat de la foi qui est dans le cœur du croyant, s'il pouvait goûter à ça, ils auraient ouvert le peut-être avec des épées pour essayer de le prendre. Allah al-Musta'an. Ils auraient dit: ah, c'est ça qu'on veut, nous. On veut rien d'autre. Le cheikh, il dit ensuite: وَلِهَذَا تَجِدُ غَالِبَ هَؤُلَا لَا يُطَيِّبُونَ عِيشَهُمْ إِلَّا بِمَا يُزِيلُ عُقُولَهُمْ وَيُلْهِي قُلُوبَهُمْ وبما من تناول مسكر أو رؤية ملهن نعم أو سماع مطرب ونحو ذلك. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit: c'est pour ça que tu vois que la plupart de ces gens-là, ils rendent pas leur vie, comme s'ils vont pas considérer que leur vie est bonne, excepté en prenant ce qui va leur enlever leur conscience ou leur raison. Et qu'est-ce qui va distraire leur cœur, comme prendre des intoxicants, de l'alcool ou autre, ou bien comme le fait de regarder à quelque chose qui les distrait, ou bien d'entendre des chansons, de la musique, et des choses de ce genre. Donc le cheikh il dit ensuite, cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit « أي أنه مما يدل على أن هؤلاء الكفار والمنافقين في هم وكدر ومعيشة ضنك رغم أنهم قد يملكون أسباب الرفاهية إنهم يتعاطون ما يريحهم من هذا الهم والغم بإذهاب عقولهم واشتغالهم بالملهيات من طرب ومعصية ويقصدون بذلك الراحة مما هم فيه فيتعاطون المسكرات والمخدرات لأجل أن يستريحوا من الهم ويسمونه الشراب الروحي لأجل أن يطردوا ما هم فيه من الهموم والأحزان ولا يدرون أن الراحة في ذكر الله عز وجل وطاعته فلذة السماع إنما تكون بسماع ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن الكريم الذي يغذي الروح والبدن ويقوي النفس ويزيد الإيمان فالكافر أو الكفار يعني فالكفار محرومون من هذا. الشيخ il dit parmi les choses qui prouvent que ces kuffars et ces hypocrites sont toujours en train de vivre dans une vie misérable remplie de soucis et de tracas et de problèmes, et malgré qu'ils possèdent peut-être parfois tous les moyens et les causes pour vivre des vies dans le luxe, dans l'argent, dans le plaisir, donc il dit le cheikh que ces gens-là, il n'y a rien qui les repose de ces soucis, de ces tracas et de ces problèmes qu'ils ont, excepté en prenant ce qui enlève leur raison. Et que de s'occuper par des divertissements, comme musique, comme péché. Et ils veulent, en faisant ça, se reposer de ce qu'ils ressentent comme douleur, comme malheur. C'est comme, par exemple, souvent les koufars, tu vois, quand c'est la fin de semaine, ils pensent qu'à fêter, C'est comme, par exemple, la semaine, là, ils travaillent, ou bien ils vont à l'école, ils travaillent dur. Puis, quand c'est la fin de semaine, il faut aller, il faut sortir, il faut se défouler, on va aller boire, on va aller danser, on va aller faire ça, on va aller écouter de la musique. Pourquoi? Parce que c'est ça, ils vivent que pour ça en fait. C'est comme si on dirait que toute la semaine, ils attendent que la fin de semaine pour pouvoir justement pouvoir faire ça. Et la semaine, c'est comme s'ils se laissent avancer comme ça, comme si en réalité ils font ça, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. La fin de semaine, ça y est, on a le temps, on va se défouler. Allah musta'an. Donc pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas heureux. C'est pour ça qu'ils font ça. Ils veulent oublier le malheur dans lequel ils sont. Et donc ils vont prendre de la drogue, ils vont prendre de l'alcool. Et pourquoi? Pour qu'ils se reposent de ces soucis qu'ils ont dans leur âme. Et même qu'ils appellent l'alcool, ils appellent ça des spiritueux. Des spiritueux. Al-sharab al-ruhi en arabe. Ils ont traduit ça. Al-sharab al-ruhi. Des spiritueux. Comme si c'est quelque chose qui te donne. Ça éveille ton état spirituel ou je sais pas quoi. Allah al-musta'an. Donc le cheikh il dit. Ils prennent ça, c'est pour repousser la tristesse et le malheur et les soucis qu'ils ont. Parce que le vrai repos, c'est uniquement dans le rappel d'Allah et dans son obéissance. Et le plaisir que la personne qui écoute la musique, le plaisir qu'elle recherche, il est en réalité uniquement dans le fait d'écouter le rappel d'Allah et d'entendre la récitation du Coran. Ça nourrit l'âme et ça nourrit le corps. Ça renforce l'âme et ça augmente la foi, tandis que les kuffars en sont privés. Ils sont privés de ça. Et le cheikh dit وَقَدْ يَشْتَدُّ بِأَحَدِهِمْ الْفَرَاغَ الرُّوحِ فَيُقْبِلُ عَلَى الْإِنْتِحَارِ لِيَسْتَرِيحْ بِزَعْمِهِ ظَنًّا أَنَّهُ إِذَا مَا تَسْتَرَاحْ وَمَا دَرَى أَنَّ مَا يَنْتَظِرُهُ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وقد يحصل هذا لضعاف الإيمان من أهل الإسلام ممن ابتعدوا عن دينهم وارتكبوا المعاصي فسودت فسودت قلوبهم يعني يفرون من واقعهم المحزن إلى تعاطي المحرمات أو الانتحار. Donc ça c'est grave. Cheikh il dit, ça peut arriver à devenir tellement sévère, tellement grave leur état de malheur qu'ils finissent hein, à avoir un vide spirituel tellement grand qu'ils pensent même à se suicider. Et même parfois ils vont le faire, ils vont se suicider, ils se tuent eux-mêmes. Et en pensant qu'en se suicidant, ils vont obtenir le repos et la tranquillité ils vont être disons en paix par rapport à tout ce qu'ils ressentent comme malheur. Et en réalité, parce qu'ils pensent que quand ils meurent ça y est c'est fini, il va se reposer, mais il ne sait pas qu'en réalité ce qui l'attend est encore plus dur hein, et plus grand comme châtiment. Wal'iyadu billah. Et ça se peut que ça se produise de la part de certains parmi les musulmans qui sont faibles dans leur foi, qui se sont éloignés de leur religion et qui ont fait des péchés au point que leurs cœurs sont devenus noirs, et à cause de ça ils veulent s'enfuir de leur réalité sombre et triste dans laquelle ils vivent, dans les péchés et tout. Donc ils s'enfuient de cette réalité là en pensant à faire plus de péchés ou en se suicidant. La meilleure chose que tu peux faire peut-être c'est lui mentionner que parce que c'est des trucs très très difficiles ça, pour faire aider quelqu'un qui est arrivé à ce stade dans ses problèmes spirituels ou religieux qu'il pense à se suicider. Arriver à ce point là c'est un niveau de foi très très faible. Et la meilleure chose que tu peux faire premièrement c'est de faire des doigts pour cette personne, parce que le doigt ça aide. Et en même temps aussi, peut-être si tu penses que la personne, tu as une bonne relation avec elle, puis que la personne elle va t'écouter, tu peux lui faire des bons rappels bénéfiques. Tu lui rappelles de craindre Allah, puis en même temps tu lui rappelles de la miséricorde d'Allah et du pardon d'Allah. Hein? Qu'il n'y a pas de péché trop grand pour Allah, pour que Allah le pardonne. Même, il n'y en a pas. Les gens, ils pensent parfois, oh non, j'ai fait un péché tellement grand, Allah ne va jamais me pardonner. C'est faux. Il n'y a pas de... La miséricorde d'Allah est plus grande que tout ce que tu peux avoir fait comme péché. Même le plus grave de tous les péchés qui est le shirk, si tu te repens, Allah, il te pardonne. Donc, quel autre péché il ne va pas pardonner si tu te repens hein? Donc, c'est ça, il faut faire comprendre aux gens. Mais en même temps, il faut que les gens soient conscients qu'ils doivent le craindre, et lorsqu'ils ont commis un péché, ils doivent se repentir. Et ça, c'est important. Mais tandis que les koufars, c'est plus difficile. Quand les koufars arrivent au niveau qu'ils pensent à se suicider, là, ça devient compliqué parce que c'est des gens, quand ils arrivent à ce point-là. Mais en même temps, quand tu vois un kafir qui ne croit même pas en Allah, qui ne croit pas au paradis, qui ne croit pas à l'enfer, qui ne croit pas qu'il y a quelque chose après la mort. Il croit qu'il est résultat d'un hasard ou d'un Big Bang ou je sais pas quoi. Alors qu'est-ce que tu vas lui dire? Il vit dans sa vie tous les jours, il a des problèmes, il est malheureux. Ces gens-là ne sont jamais heureux. Hein? Surtout si par exemple, il y en a parmi eux, ces koufas souvent, leur vie, c'est leur but absolu ou le plus grand chose dans leur vie, c'est un homme ou une femme qu'ils ont rencontré. Et si par exemple la personne qu'ils aiment elle meurt ou elle le quitte, alors ça y est, ils ont plus de raison de vivre. Alors ils pensent juste à se suicider. Ils ne réalisent pas que le but de l'existence c'est pas pour être avec une autre créature et que si cette créature là n'existe plus, toi t'existes plus. Mais plutôt, c'est d'adorer Allah. Hein? Par exemple, si tu écoutes les paroles des chansons des koufars, quand ils mentionnent ce genre de choses-là, ils disent, par exemple, des paroles comme « Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. » Est-ce qu'il y a une créature que si elle n'existe pas, toi, tu ne vas pas exister? Non. Allah, il t'a créé. Et puis, toi, tu as été créé pour l'adorer. Donc si la personne elle meurt ou si elle n'existe pas, toi tu vas continuer à exister aussi et tu vas continuer à adorer Allah. Mais yani, dans les paroles des chansons des koufars, il y a plein de paroles de kouf comme ça, yani, des paroles d'égarement, d'ignorance. Parce que les gens, quand ils écrivent ça, ils se laissent inspirer par le shaitan. Et le shaitan leur fait dire plein de choses qui sont yani, insensées. Yani, mais, ils sont drogués ou bien ils sont ivres par de l'alcool ou bien ivres par d'autres choses. Hein. Parce que, tu sais, Ibn al-Qayyim, il a dit, la musique et les chansons, elles créent en l'âme de l'homme une ivresse qui est plus forte que l'ivresse de l'alcool. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il paraît même, je ne sais pas si c'est vrai, on s'éloigne un peu du sujet, mais il paraît même que dans les fermes, certains fermiers maintenant, pour que leurs animaux, ils produisent les vaches, par exemple, s'ils veulent leur faire produire du lait, ils leur mettent de la musique dans les étables. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais j'ai entendu ça. Ils mettent de la musique, puis les vaches produisent plus de lait. Ah oui, pour les plantes aussi. Ajib, subhanallah. Ajib, subhanallah. Peut-être que c'est vrai, parce que même dans les commerces, partout, il y a de la musique. Ils disent que ça encourage les employés à travailler plus et les clients à acheter plus. Parce que, ouais, parce que si quelqu'un rentre quelque part, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de musique, la personne, elle rentre, elle achète, elle s'en va. Et, ou bien elle rentre, elle regarde, puis elle s'en va. Mais quand il y a de la musique, ça crée une ambiance. Hein? Je me rappelle, je suis rentré dans un magasin de chaussures aux États-Unis, tellement que la musique était forte, pour parler au vendeur, il faut crier. Parce que sinon, il va pas comprendre qu'est-ce que tu dis, parce que c'est trop fort. Allah al-Musta'an. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Il dit, وَبِإِذَاءِ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يعني يُعَجِّلْ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَ الرَّحْمَةِ فِي قُلُوبِهِمْ وَغَيْرِهَا وَبِمَا يَجِدُونَهُ مِنْ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ وَيَذُوقُونَهُ مِنْ طَعْمِهِ يعني الشيخ يقول وانشراح صدورهم للإسلام إلى غير ذلك من السرور بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه. Donc il dit que par opposition à ce qu'on a décrit par rapport aux munafiqin et aux kuffar, maintenant ce que Allah dit ensuite à propos des croyants, ulaika sayarhamuhumullah, ce qui signifie yani ceux-là, Allah va leur faire la miséricorde, c'est-à-dire aux croyants, Allah va leur faire la miséricorde. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre dans le cœur des croyants une miséricorde dans leur cœur, hein, et ils vont, ça c'est comme ce qu'ils ressentent dans leur cœur comme douceur de la foi. Et le goût qu'ils trouvent dans leur cœur de la foi, du fait que leur poitrine est, elle s'expand, hein, elle s'ouvre à l'islam, et ainsi que beaucoup d'autres formes de bonheur qui reviennent chez le croyant dans sa foi, dans sa science, la science bénéfique qu'il a et dans les bonnes œuvres qu'il fait, qui est indescriptible, qui est indescriptible. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit, hey, بمقابلة حال المنافقين والكفار ما ذكره في حال المؤمنين حيث عجل الله لهم الرحمة في الدنيا قبل الآخرة بما يجدونه في صدورهم من حلاوة الإيمان وانشراح الصدر فهم حتى وإن كانوا فقراء لا يملكون من حطام الدنيا شيئا إلا أنهم في قمة السعادة لا وضعه لما وضعه الله في قلوبهم من القناعة والرضا لأن تطلعهم إنما هو لما عند الله في الدنيا إنما هي طريقهم إلى الآخرة. Donc c'est ça. L'état, Allah il met face à face l'état des munafiqin et des kuffar, puis l'état des mu'minin, et il mentionne qu'est-ce qu'ils ont, eux, les munafiqin, comme état, et qu'est-ce que les mu'minin, eux, sont, yani, ressentent comme état yani, par rapport à leur foi. Et Allah leur donne la miséricorde dans la dunya avant l'au-delà. Et ils ressentent en leur cœur la douceur de la foi. et leur poitrine qui est ouverte à cause de ça. Et ils se sentent pas serrés dans leur cœur. Et donc, il dit, même si c'est des pauvres et qu'ils ont rien de la vie d'ici-bas, mais ils ressentent la plus haute forme de bonheur possible dans leur cœur. Et ils sont des gens satisfaits. Et ils sont satisfaits de ce que Allah leur donne. C'est-à-dire que, même s'ils ont peu, ils ne veulent pas plus. Ils sont satisfaits de ce qu'ils ont. Et ils ont l'agrément. Ils sont satisfaits de ça. Et ils regardent, plutôt à qu'est-ce qui est. Qu'est-ce qui les atteint de la part d'Allah dans l'au-delà. Ils voient la dunya ici comme un chemin qu'ils traversent pour aller vers l'au-delà. C'est pas, pour eux, cette vie d'ici-bas, c'est pas le but de leur voyage. C'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est qu'est-ce qu'il y a après cette vie. Donc, eux, ils prennent cette vie d'ici-bas juste comme un chemin pour arriver à leur objectif. C'est-à-dire d'arriver pour atteindre le paradis. Mais ce n'est pas ici leur objectif. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui arrive ici? C'est que le cheikh Ibn Taymiyyah, maintenant, il va expliquer une partie du verset, mais c'est plutôt des explications qui ont rapport avec des choses grammaticales. Donc, il explique le verset qui dit, « وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فِي تَمَامِ خَبَرِ الْمُنَافِقِينَ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. C'est-à-dire comme ceux qui étaient avant vous, ils étaient plus durs que vous, ils avaient plus de force et plus d'enfants, plus de richesses et plus d'enfants que vous. Le cheikh, il explique ici que les savants ont divergé par rapport à, ou bien pas ils ont divergé, mais ils ont expliqué différemment le sens de ce verset-là par rapport au kaf ici. Kalladhina min qablikum. Il a dit, certains l'ont expliqué comme étant l'état de ceux qui étaient avant eux, et d'autres l'ont expliqué en voulant dire l'action de ceux qui étaient avant eux. Il dit antum kalladhina min qablikum ou فَعَلْتُمْ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Et là, il va donner plein de détails qui ont rapport avec la grammaire et la langue pour expliquer ces différentes explications par rapport au verset. Nous, on va juste lire le commentaire de Cheikh Al-Fawzan à propos de ce passage-là, parce que c'est quand même deux pages et demie. Une, deux, et ici. Et voici qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan dit ici. هذه مباحث لغوية قد لا تفيد السامع غير المتخصص كثيرا وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غزارة علمه فهو لا يترك بعض المباحث العلمية التي تعترض طريقه بل يفصلها ولكن هذه الأمور قد لا يستفيد منها إلا المتخصصون أما عامة الناس والمبتدئون في طلب العلم فقد لا يستفيدون منها فلذلك نحن نتجاوزها إلى قوله وأما قوله فاستمتعوا بخلاقهم. Donc le cheikh Al-Fawzan, il dit, ça c'est des questions qui ont rapport avec les trucs de grammaire, la langue arabe et tout ça, et c'est possible que ça va pas être très bénéfique pour les auditeurs qui écoutent ça, sauf ceux qui sont vraiment spécialisés dans ces questions-là. Et donc, si ça indique une chose, ça indique que on voit que Ibn Taymiyyah, il avait une science très profonde de la religion et de la langue arabe, et ainsi de suite. Et quand il passait sur un point qui a rapport avec la science, il ne le laissait pas sans rentrer en détail dedans. Mais ces choses-là, peut-être que personne ne va en profiter, excepté ceux qui sont vraiment spécialisés là-dedans. En ce qui concerne le commun des gens, ou les débutants dans la science, eux, ils ne vont pas profiter beaucoup de ces détails-là. Donc, on va passer par-dessus, puis on va aller directement à la suite de ce que le cheikh explique lorsqu'il dit, il explique le verset suivant par la suite dans Surat al-Tawba, le verset 69. Nous, on va s'arrêter ici. C'était juste pour dire comme que le cheikh, il a sauté ce passage-là qui était long, mais en même temps, pour quelqu'un comme nous, des gens comme nous, à notre niveau, ça ne nous profitera pas beaucoup, donc on passe par-dessus. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis au prochain cours, on continuera la suite de l'explication du verset, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين